Bonjour. Dans l'introduction historique que les organisateurs de cette journée m'ont fait l'honneur de me demander, quand je dis les organisateurs, Réjeanne m'a demandé à le dire en premier lieu, j'ai souhaité évoquer une question que se posent les historiens de l'éducation. Je suis moi-même un historien de l'éducation, du moins une partie d'entre eux, et qui me semble concerner directement l'objet même de cette journée et le projet des lieux d'éducation associés. Cette question est finalement, quel est le statut de l'établissement scolaire, et plus largement, quelle place revient à la dimension locale dans l'évolution historique, ou dans l'évolution au quotidien d'ailleurs, de la scolarisation et des pratiques d'enseignement. Et j'ajouterais aussi, quelle est cette place dans la manière dont nous nous figurons cette évolution. Et là, quand je dis « nous », je parle non seulement des historiens, mais également de tout un chacun, de tous ceux qui s'intéressent en tout cas aux questions éducatives, y compris ce qu'on appelle le grand public. Je commencerai mon exposé par un constat paradoxal. Pendant très longtemps, la monographie d'établissement a constitué le genre le plus abondant de la production historique en matière d'éducation. Quand je dis de pendant très longtemps, c'est-à-dire depuis plusieurs siècles, puisque ce genre existe depuis plusieurs siècles. En fait, il a été le genre dominant jusqu'aux années 1960-1970, où on peut dire que les analyses critiques ont commencé à l'emporter sur la célébration du passé. Et ce déclin amorcé dans les années 60 ne s'est pas arrêté avec, je dirais, le déclin aussi de ces analyses critiques, mais il s'est au contraire prolongé, et la monographie d'établissement est depuis devenue un genre assez mineur, à la fois par la quantité des publications, des études produites, mais également par leur ampleur, elles sont de plus en plus réduites, de plus en plus courtes, et par leur statut éditorial. Si on voulait caricaturer, on dirait qu'on est passé des grandes études publiées par de grands éditeurs ou des éditeurs scientifiques à des plaquettes éditées à l'occasion de commémorations ou à l'occasion dans le cadre d'une promotion de tel ou tel établissement. Or, entre-temps, et c'est là que le paradoxe se situe, entre-temps, et en particulier à partir des années 1980 surtout, qui sont aussi le moment du retournement, enfin disons du début de la, comment dirais-je, de la décentralisation contemporaine de l'éducation, à partir des années 80, de plus en plus d'historiens de l'éducation ont reconnu justement l'établissement scolaire, mais aussi la ville, comme des échelons pertinents pour aborder l'histoire scolaire, alors que jusque-là, c'est des échelons qui n'étaient pas véritablement reconnus comme significatifs. En particulier la ville, d'ailleurs, qui est le lieu par excellence, par exemple, des études en histoire de l'éducation dans l'historiographie américaine, mais qui, en France, pays centralisé avec de belles archives où on peut reconstituer des histoires nationales, avait rarement été mise à contribution. Comment se fait-il, dans ces conditions, que le genre vénérable de la monographie d'établissement, loin de se rétablir à la faveur de cette réhabilitation ou de cette découverte de l'échelon local, et continue à décliner? Je pense que pour répondre à cette question, il faut d'abord interroger ce genre monographique qui a tant plu et qui plaît encore à l'occasion de la monographie, donc de l'histoire d'établissement. Que trouve-t-on en général dans ces histoires? La plupart du temps, on y voit briller les noms d'élèves fameux, de professeurs illustres, éventuellement de proviseurs, enfin d'administrateurs bien connus. On y voit fleurir les anecdotes, les détails pittoresques. Aussi parfois apparaître des épisodes plus graves, des révoltes d'élèves plus ou moins violentes, des événements historiques tragiques vécus dans tel ou tel lycée, ou des événements historiques vus à travers le regard d'anciens lycéens, par exemple, etc. On y trouve aussi, d'ailleurs, des témoignages d'une conception assez curieuse de ce qui fait l'identité d'un établissement. Je prendrai quelques exemples. Un établissement peut être assimilé à un lieu, et toute la première partie d'une monographie qui a été publiée il y a quelques années du lycée Henri IV, par exemple, parle en fait de l'abbaye de Sainte-Geneviève, qualifiée de lieu, je ne sais plus quel est le lieu commun en question, mais enfin bref, l'abbaye de Sainte-Geneviève qui est donc enrôlée dans l'histoire du lycée Henri IV, ce qui est quand même un petit peu excessif. Le lycée Louis le Grand, proclame fièrement sur ses brochures depuis 1563, c'est-à-dire non pas la fondation naturellement du lycée Louis le Grand, mais celle du collège jésuite de Paris. Voilà. Et on pourrait aussi, je pourrais citer également le titre d'un ouvrage dont j'avais fait une note critique, qui s'intitule un lycée dans la tourmente. Il s'agissait de Jean-Baptiste Say, qui à l'époque était une école primaire supérieure de Paris. Et il s'agit évidemment de ce lycée à l'époque de l'occupation. Donc là encore, le lycée qui est devenu l'établissement absorbe l'école primaire supérieure qu'il était à cette époque-là. Cette littérature doit l'essentiel de son succès à un mélange de nostalgie, je parle de la part des lecteurs naturellement, de familiarité, puisqu'après tout l'expérience scolaire, en tout cas de nos jours, et ici, est presque universellement partagée, mais aussi de dépaysement quand la période est lointaine. Le problème, c'est qu'elle incite rarement à une relecture critique du passé, et du passé scolaire en l'occurrence. Peut-on, à partir de ces briques que sont ces monographies à l'ancienne, construire une histoire scolaire qui dépasserait le cadre de chacun de ces établissements? C'est ce qu'on pensait dans les premières années, les premières décennies même de la Troisième République, à l'époque du positivisme. Les entrepreneurs de monographies républicaines, des écoles centrales, ces établissements départementaux et ouverts que la Convention avait créé en 1795, et prétendait substituer aux anciens collèges d'humanité de l'ancien régime, écoles centrales qui d'ailleurs ont été très vite remplacées par les lycées créés en 1802. De l'autre côté, les partisans des humanités classiques, à la même époque, et ceux de l'enseignement catholique, multipliaient les monographies de collèges sous l'ancien régime, de collèges de l'ancien régime, tout à la gloire de l'enseignement en latin. Et malgré le contexte et les lourds enjeux idéologiques qui opposaient alors les partisans de l'école de l'État à ceux de l'école de l'Église, certaines de ces monographies, d'ailleurs, rigoureuses, bien documentées, se lisent encore aujourd'hui avec intérêt. Mais ce genre monographique a un défaut rédhibitoire. Comme il porte sur un établissement isolé, il ne se donne pas les moyens de monter en généralité. Et il ne se donne pas les moyens de relier les faits observés ici à ceux observés ailleurs, ces faits du même ordre dont la comparaison systématique permettrait de séparer ce qui relève du cas particulier qu'on étudie de ce qui s'impose partout, c'est-à-dire de ce qui compose, si vous voulez, un modèle, une règle de fonctionnement, une logique, donc, qui s'imposerait dans tous les établissements. Dans une monographie isolée, on cherche ce qui est particulier, ce qui est original. Mais il est difficile de distinguer ce qu'il est réellement de ce qui relève de l'ignorance du lecteur, ou même de l'ignorance d'ailleurs de l'auteur, à vrai dire, puisque faute d'un cadre local, finalement, ces travaux locaux nous renseignent bien peu, finalement, sur ce qui relève, faute d'un cadre général, pardon, ces travaux locaux nous renseignent bien peu sur ce qui relève de réalité ou de dynamique locale. A fortiori, ils nous en disent encore moins sur l'évolution générale et sur la manière dont se tisse cette évolution générale à travers la diversité des cas locaux. En fait, beaucoup de ces travaux reposent sur l'idée implicite d'une sorte de stabilité de l'univers scolaire qui nous permettrait de comprendre directement ce qui est désigné par un vocabulaire familier. Même lorsque, et c'est le cas très souvent, lorsque ces mots ont changé de sens avec le temps, comme des termes aussi simples qu'une copie, par exemple, ou une rédaction, n'ont absolument pas le même sens aujourd'hui que le sens qu'ils avaient encore à la fin du XIXe siècle. Donc tout ça comme si le monde scolaire était éternel et figé. Ils impliquent souvent aussi, quand ils portent sur une période récente notamment, l'idée d'une uniformité des pratiques d'enseignement et de l'organisation scolaire à partir du moment où ces pratiques où cette organisation sont définies par des règlements au sommet, des règlements uniques et uniformes. C'est l'idée, assez propre au cas français, d'une centralisation sans faille de l'institution scolaire à laquelle renvoient encore des expressions comme le lycée napoléonien, qu'on entend encore aujourd'hui, par lesquelles on croit généralement décrire une réalité scolaire standardisée qui serait plus ou moins identique en tout lieu. Or, à l'époque napoléonienne et pendant tout le XIXe siècle, et même d'ailleurs une grande partie du XXe, les lycées sont divers, ouvertement inégaux et tout aussi ouvertement et officiellement hiérarchisés. En matière d'enseignement primaire, la même illusion très jacobine d'une école républicaine, plus ou moins uniforme dans ses méthodes ou dans ses réalités locales, occulte volontiers les tensions pédagogiques et la diversité nécessaire et largement assumée à l'époque d'une institution primaire pilotée à l'échelle départementale essentiellement et plus attachée à la pédagogie de la leçon de choses et de la petite patrie, comme l'a montré Jean-François Chanet, qu'à l'extermination des cultures et langues locales à laquelle on la renvoie souvent. Cette illusion centralisatrice, beaucoup de parlementaires et de témoins y succombent lors des auditions de la commission Ribot en 1898-1899. La commission Ribot est une commission chargée d'étudier les remèdes à la crise de l'enseignement secondaire masculin qui se manifestait à l'époque à la fois par un fort déclin des effectifs et par, notamment comparé à ceux de l'enseignement confessionnel, et à un effondrement de l'internat. Et donc, les témoins et les parlementaires de cette commission sont persuadés, succombent donc à cette illusion centralisatrice, persuadés qu'ils sont que l'uniformité des lycées et l'absence d'autonomie et de personnalité propre qui en résulte sont les causes de leur déclin face à ce qu'on appelle dans le rapport Ribot, très significativement, les maisons d'éducation confessionnelle. En fait, si Hippolyte Fortoul, dès les années 1850, a proclamé que l'État, à travers ses lycées, offrait désormais aux populations de tout l'Empire la même éducation, et à l'époque, il s'agissait d'un argument concurrentiel à l'égard de la concurrence privée libérée par la loi Fallou, on essayait d'ouvrir plus de lycées et de dire « Vous aurez exactement la même éducation à Digne qu'au lycée Louis-le-Grand. » Enfin, oui, au lycée Louis-le-Grand. Et même si la générosité de la République réduit un peu les inégalités entre les gros lycées parisiens et les petits établissements des départements ruraux, l'inégalité et la diversité restent les traits dominants du paysage scolaire. Et cette inégalité et cette diversité ne sont pas sans effet sur le fonctionnement du système scolaire, y compris dans le domaine des contenus et des pratiques pédagogiques. Par exemple, pour donner une illustration, les lycées parisiens ont des professeurs d'histoire dès leur création, c'est-à-dire dès la création des lycées, dès 1803-1804, quand ouvrent les premiers lycées parisiens, c'est-à-dire avant même que ces professeurs d'histoire soient créés par la réglementation, alors que les petits lycées de province n'ont encore pas de professeurs d'histoire au début du XXe siècle, en tout cas pour les classes du premier cycle. On voit là quand même la différence, l'implication de ces inégalités scolaires sur le contenu même et l'organisation même de ces études. Cette illusion centralisatrice, beaucoup d'entre nous la partagent encore, parce que nous sommes plus ou moins, nous avons grandi, les plus âgés d'entre nous ont grandi à l'intérieur ou en tout cas l'ont connu à son maximum. La France aurait été, en quelque sorte, de toute éternité, du moins depuis Bonaparte, un pays de centralisation administrative et scolaire où tout, toujours, se décidait à Paris, du moins à Paris et depuis Paris, du moins jusqu'aux lois de décentralisation des années 1980, qui ont délégué aux régions et départements la responsabilité notamment de l'équipement scolaire, et qui ont délégué aux établissements le soin de se doter de projets propres. À l'époque, cette décentralisation a été vécue comme quelque chose de radicalement nouveau, qui rompait totalement avec la tradition éducative française. En fait, on est là dans l'illusion rétrospective. Le véritable grand moment de la centralisation scolaire en France, c'est la période qui va grosso modo des années 50 au début des années 1970. Et ce moment ne se place en rien dans le prolongement du monopole en trompe-l'œil de Napoléon, parce que c'est un monopole qui avait beaucoup, beaucoup d'exceptions. C'est un moment historique précis assez court, celui de l'explosion scolaire de l'après-guerre, choc démographique qui a porté les taux de scolarisation secondaire et supérieure à des niveaux inédits, et même inouïs à l'époque, en vérité, à une vitesse dont on n'a pas idée, enfin dont on n'a plus l'idée aujourd'hui, et qui a mis l'État en demeure d'organiser immédiatement, en urgence, l'encadrement de ces masses de jeunes à scolariser. C'est de ce choc qu'est née la carte scolaire et qu'est née une politique de quadrillage du territoire par les collèges d'enseignement secondaire, ces fameux établissements polyvalents dont on connaît également le modèle architectural qui est encore très, très présent dans nos villes et qui a été intitulé après une catastrophe le modèle Pailleron. qui est pas tout à fait, ce qui est pas tout à fait aimable, mais enfin, ce sont pas non plus des établissements d'une beauté transcendante. Politique de quadrillage du territoire à marche forcée, le plus grand effort de construction scolaire jamais entrepris dans notre pays, au cours duquel la ségrégation des filières et celle des garçons et des filles, c'est-à-dire la question de la mixité, ont été totalement emportées. La mixité s'est imposée sans qu'on en discute parce que c'était devenu nécessaire en raison de la rationalisation du système. Cet épisode a ancré dans les mentalités l'idée d'établissement public qui ne serait que les succursales, en quelque sorte, d'une institution pilotée d'en haut et dont l'évolution ne dépendrait que de l'autorité supérieure, idée très forte déjà en France, où la guerre scolaire a longtemps occulté les autres moteurs de l'évolution éducative et fait de l'Église et de l'État les acteurs uniques de cette évolution. Or, c'est un modèle d'évolution très différent qu'offre l'histoire de la scolarisation depuis quelques décennies, dans lequel les établissements se trouvent au cœur de cette évolution, aussi bien en matière d'organisation scolaire, de régime disciplinaire et de mode d'accueil des élèves que du point de vue des contenus et des méthodes d'enseignement. Un des facteurs de cette évolution de l'histoire de la scolarisation et de l'enseignement réside dans la pratique relativement récente, quand je dis relativement récente, c'est à l'échelle quand même de quelques décennies, de ce que j'appelle la monographie en série, c'est-à-dire la production de répertoires systématiques de tel type d'établissement ou de tel réseau, permettant de mettre en évidence leurs caractères communs et leurs différences et d'intégrer ces données à la lecture globale d'une forme d'enseignement, de ces logiques de fonctionnement, de ces logiques de diversification et d'évolution. Deux chantiers pionniers sont à mentionner ici, à peu près contemporains, c'est-à-dire qu'ils ont été entamés dans les années 1970. Le premier est le répertoire des collèges français du XVIe au XVIIIe siècle de Dominique Julia et Marie-Madeleine Compère. La démarche initiale ici était celle de la reconstitution d'une offre scolaire, celle des collèges d'humanité, qui sont à l'origine de l'enseignement secondaire. Cette offre est particulièrement complexe, elle dépend soit d'universités, les collèges eux-mêmes sont nés dans le cadre de la Faculté des Arts de Paris, ou de congrégations, souvent issues d'initiatives des autorités urbaines, ou en tout cas soutenues par les autorités urbaines. Les collèges, donc ces collèges, se diffusent à travers l'Europe et puis l'Amérique catholique, et aussi d'ailleurs dans le monde, dans les pays protestants sous des formes analogues, à partir du XVIe siècle. En reconstituant la carte virtuelle de ces établissements, leur apparition, leur fondement institutionnel et financier, leur moment de croissance et d'affaiblissement, leur concurrence, y compris la concurrence, les concurrences entre gros collèges dans la même ville, mais aussi la concurrence entre gros collèges urbains et petits collèges ou petits établissements de proximité, ce recensement a offert à l'histoire de l'éducation un matériau d'une richesse extraordinaire, à partir duquel apparaît dans toute sa complexité le rôle des établissements dans l'histoire scolaire. Le deuxième chantier de cet ordre est celui de Jean-Pierre Briand et de Jean-Marie Chapouly, le chantier qu'ils ont mené sur les écoles primaires supérieures de la Troisième République. Dans ce cas, on est en présence d'un réseau scolaire relevant d'une administration de l'État, en l'occurrence la direction de l'enseignement primaire du ministère de l'Instruction publique. Pourtant, c'est plus encore que dans le cas des collèges d'humanité, l'extraordinaire variété de ces établissements, des enseignements qu'ils offrent et des finalités auxquelles ils répondent qui frappent de la formation de futurs instituteurs ou institutrices à celle d'employés, d'ouvriers et même, pour quelques-uns, de futurs ingénieurs, en passant par les écoles d'arts et métiers puis l'école centrale. Ce qui frappe aussi, c'est la présence des municipalités dans cette histoire. Celle des notables, celle des milieux professionnels, des agents territoriaux et locaux de l'institution scolaire, recteurs, inspecteurs d'académie, inspecteurs primaires, chefs d'établissement, celle des réseaux du primaire, les écoles élémentaires, les écoles normales, tout cela forme un réseau donc à l'échelle d'une académie, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région, et également les relations conflictuelles avec l'administration de l'enseignement technique. Ces deux chantiers initiaux ont eu un effet d'entraînement sur l'histoire de la scolarisation en encourageant notamment à aller chercher dans les archives les traces de la réalité de l'offre scolaire au lieu de se contenter du regard d'en haut. J'ai eu la chance de participer avec Gérard Baudet à cette découverte concernant l'enseignement technique à une époque, les années 1990, je vous rassure, je ne suis pas si vieux, où parce qu'il procédait d'en bas, d'initiatives locales bien souvent, et parce qu'il n'avait pas retenu l'attention des historiens en même titre que des enseignements plus prestigieux comme le secondaire ou des enseignements plus universels comme le primaire, on ne savait quasiment rien de l'histoire de cet enseignement, l'enseignement technique donc, en dehors de quelques exemples exemplaires, de quelques cas exemplaires, de quelques écoles. époque donc où on ne savait pratiquement rien et où pourtant les archives recelaient ni plus ni moins, je n'hésite pas à le dire, qu'un continent englouti. Depuis 20 ans, des pans entiers de ce continent ont émergé parce qu'il y a eu énormément d'études sur l'enseignement technique, même s'il reste beaucoup à découvrir. À l'autre extrémité de l'offre scolaire à cet égard, l'enseignement secondaire contemporain, né de la loi de 1802 créant les lycées, est né et s'est développé, lui, directement sous la tutelle de l'État et même a servi d'avant-garde dans la construction de l'institution scolaire publique. On est donc vraiment à l'opposé. J'ai pourtant pu appliquer dans une certaine mesure cette méthode de la monographie en série aux lycées et aux collèges communaux du XIXe siècle. On peut trouver les principaux résultats de cette approche dans un ouvrage récemment publié sur la construction de l'enseignement secondaire entre 1802 et 1914. Et ici, l'objectif ne consistait pas à retrouver des établissements disparus, puisque là, vraiment, même si la cartographie exhaustive des collèges communaux au XIXe siècle présente quelques difficultés, les collèges et les lycées de cette époque sont répertoriés dans des annuaires et almanachs officiels, et ils ont fait l'objet de publications statistiques très détaillées, notamment pour les années 1865, 1876, 1887 et 1899. Ma démarche a été donc non pas de découvrir des établissements oubliés, mais de reconstruire l'histoire de l'enseignement secondaire en prenant pour point de vue central celui de l'établissement secondaire, celui de son organisation scolaire héritée des collèges d'humanité, mais en tension en évolution jusqu'en 1880, de la distribution des élèves entre boursiers et pensionnaires payants, demi-pensionnaires, externes encadrés en dehors des classes dans des pensions privées, externes libres, etc., de la composition du corps enseignant, des professeurs ou répétiteurs, de sa gouvernance, pour employer un terme d'aujourd'hui, qui convient assez au modèle de distribution de l'autorité propre au lycée de l'époque. Ainsi, l'histoire que je me suis efforcé de produire est celle de l'évolution d'une forme d'établissement et d'enseignement de sa naissance en 1802, de sa naissance en 1802 à sa réinvention un siècle plus tard, non pas en faisant abstraction du rôle des autorités éducatives, mais en montrant combien leur action s'inscrit nécessairement dans un cadre fixé par le modèle économique, organisationnel et pédagogique du lycée qui, en grande partie d'ailleurs, celui des collèges d'humanité que Bonaparte et Fourcroy ont choisi de ressusciter tout en l'adaptant et en le modernisant. Une histoire de la scolarisation et de l'enseignement qui prend en compte l'échelle de l'établissement n'est donc pas nécessairement une histoire construite à partir de sources purement locales et d'un point de vue uniquement local. C'est avant tout une histoire qui identifie l'établissement comme une échelle pertinente d'observation de l'enseignement parce que c'est l'échelle par excellence où se construisent et évoluent l'offre et l'organisation scolaire. Cela me conduit à la dernière partie de mon exposé, celle dans laquelle... Et courte, oui. Je vais tenter de répondre un peu plus directement à la question de la contribution des établissements. Bon, si elle sera courte, je vais peut-être couper dans ce que j'avais à dire, parce qu'effectivement, il y en avait encore beaucoup. Je pensais avoir préparé un peu moins. La première remarque que je ferai... L'établissement scolaire est né avec ce qui deviendra trois siècles plus tard l'enseignement secondaire. Et quand on regarde l'histoire, je vais résumer un peu ce que j'avais à dire, quand on regarde l'histoire de cet enseignement secondaire, on s'aperçoit par exemple que la manière dont les jésuites ont construit le modèle qui va devenir un peu le modèle emblématique de ce collège, et non pas un modèle, on connaît la ratio studiorum, c'est-à-dire l'organisation des études, qui a été défini par les jésuites, eh bien ce document lui-même s'est construit par un aller-retour à l'aide de visiteurs entre les prescriptions de Rome et la réalité qu'observaient les visiteurs dans des collèges lointains, des provinces, dont ils s'inspiraient. Je voulais dire aussi rapidement que l'évolution des contenus et des méthodes pédagogiques, ainsi que des pratiques scolaires, n'obéit pas qu'à un modèle centralisé, c'est-à-dire que ça ne vient pas que d'en haut, mais qu'il y a eu d'autres modèles particulièrement efficaces, d'autres logiques à l'œuvre, en particulier des logiques de marché, à une époque où les élèves étaient rares, à une époque où les établissements avaient surtout comme préoccupation de viabiliser leur offre en attirant des élèves, le fait de créer des enseignements nouveaux, le fait de développer des préparations à des enseignements qui se préparaient, qui étaient comme qui faisaient l'objet de concours, par exemple, tout ceci a été créatif d'une offre qui n'a pas été créée d'en haut, mais qui a été créée par, en quelque sorte, des entrepreneurs scolaires, qu'ils soient privés ou publics. Je voulais dire également que... à côté de ces mécanismes de ces mécanismes de marché, un autre facteur d'évolution est tout simplement l'usure de certaines pratiques et de certains exercices qui font que les pratiques d'enseignement changent à l'intérieur des établissements avant de changer officiellement. Je prendrai l'exemple de la fameuse polémique entre Monseigneur Dupanloup et Jules Simon, qui en 1872 veut réduire le temps consacré aux humanités classiques, enfin, veut supprimer certains exercices latins et grecs au profit de la gymnastique et de l'histoire. On est après la guerre 70. Et finalement, quand il y a une polémique terrible à cette époque-là, et finalement, quand on regarde, enfin, André Chervel a pu établir qu'en fait, ces exercices avaient quasiment disparu et que la composition française était silencieusement en train de s'établir et de coloniser l'enseignement secondaire à l'époque, en silence, tout simplement parce que les professeurs n'avaient plus en face d'eux les élèves capables n'avaient pas le niveau, n'avaient plus le niveau latin, les professeurs non plus, à vrai dire, pour continuer comme on le faisait sous l'Ancien Régime. L'établissement scolaire, donc, est le lieu où se rencontrent les élèves et les enseignants et sur lequel pèsent toutes les contraintes inhérentes à cette rencontre. Il est de ce fait un lieu privilégié d'observation de la réalité scolaire. Mais cette observation ne peut se passer de contextualisation. Aucun dispositif éducatif n'existe en dehors de tout contexte social ou matériel. C'est la dure leçon à laquelle se sont heurtés les réformateurs les plus audacieux du système scolaire depuis que les ratés de la démocratisation se sont manifestés. Et en particulier, je pense aux auteurs du rapport Jacques sur la condition enseignante en 1972, décidément, et à d'autres après eux, qui ont suggéré une sorte de subversion des cadres disciplinaires, du cadre de la classe, etc., et qui sont, pour résoudre la fameuse crise de la relation pédagogique, et qui se sont heurtés donc aux limites de la classe, aux limites imposées par le temps de service des enseignants, etc. Je dirais pour conclure que se donner pour projet d'observer la réalité scolaire, y compris par la voie de l'expérimentation, sans perdre de vue le poids du contexte local et la centralité des établissements, comme le font les LEA, et je voudrais joindre là aussi l'Observatoire des politiques éducatives locales de l'IFE, à cet hommage, me paraît en ce sens une démarche pleine de promesses. Et je suis donc très heureux, même si j'étais un petit peu trop long, d'avoir ouvert cette journée d'ELEA, cette quatrième journée d'ELEA.